RCF. Robert Guédiguian, merci de nous accueillir chez vous, à Montreuil, près de Paris, et non pas à Marseille, comme pourraient l'imaginer tous ceux qui connaissent vos films, tournés souvent dans la cité phocéenne. Mais pour ne pas trop souffrir de l'exil de votre ville natale, il y a quand même ce grand tableau du Vieux-Port qui est accroché au mur juste derrière moi. Et puis j'aperçois un panneau indiquant l'Estac dans le jardin, un panneau que je crois avoir vu dans Marius et Jeannette. Robert Guédiguian, vous êtes réalisateur de cinéma, producteur. Parmi vos 22 films, il y a bien sûr Marius et Jeannette, mais aussi Le Promeneur du Champ de Mars, le magnifique Gloria Mundi en 2019 et le tout récent Twist à Bamako en salle le 5 janvier 2022. Robert Guédiguian, vous êtes un cinéaste engagé politiquement. Et même si vous n'appartenez à aucun parti, vous avez rendu votre carte du Parti communiste en 1979, vous vous définissez comme communiste et vos tournages de films sont des moments communistes, dites-vous. C'est ce que vous expliquez dans le livre de dialogue avec Christophe Kantchev intitulé « Les lendemains chanteront-ils encore ?» aux éditions Les Liens qui libèrent. Robert Guédiguian, si l'on remonte le fil de votre histoire, comment est née votre conscience sociale et politique?
D'abord, c'est, je crois, tout simplement, avec le regard d'un enfant, de voir des parents extrêmement travailleurs, fatigués, travaillant jour et nuit, etc. Il y a beaucoup de... Mon père a travaillé sur les quais, c'est un endroit où il y avait beaucoup d'accidents du travail, par exemple. Plus que dans le bâtiment.
Il était ouvrier électricien,
tout à fait. Électromécanicien, plus exactement. Et il, il rentrait souvent du travail en étant blessé. C'est-à-dire avec un doigt coupé, avec, bon. Donc pour moi, j'ai une vision comme ça un peu d'abord, j'allais dire, comme si c'était des titans, hein, ces ouvriers-là. J'ai une vision, en plus, ils étaient très forts, costauds, c'était beaucoup des ouvriers, ils travaillaient, c'était beaucoup des ceintures de force, des doigts, des doigts en cuir, des crânes de main, enfin bon. J'avais à la fois, ils m'effrayaient un peu, en fait, tous ces ouvriers-là. Et je les admirais en même temps. Pour moi, c'était des personnages un peu mythiques, en fait. Mmh.
Vous présentez souvent dans vos films ce qu'on appelle les pauvres gens, hein, pour reprendre l'expression de Victor Hugo.
Oui.
Vous avez connu ça, c'est votre enfance.
Mais complètement, c'est-à-dire, nous vivions, d'ailleurs en étant parfaitement heureux, presque paradoxalement, mais on vivait dans 30 mètres carrés à peu près, qu'on vivait comme au 19e siècle, là, je dis souvent, il y avait...
Vous étiez combien, là, dans 30 mètres carrés?
On n'était que quatre. Mais il y avait des familles ou des amis qui étaient plus nombreux que ça. Nous, on était quatre, et effectivement, il n'y avait pas de toilettes, il y avait un seau hygiénique, enfin, il y avait... On se lavait en faisant chauffer l'eau petit à petit sur la cuisinière et on versait une casserole dans la bassine. Enfin bon,
et on n'est pas au 19e siècle. Hein.
C'est ça.
On est fin des années 50.
Oui, 55, 53. Mmh. Je suis fin 53. Et effectivement, je me dis, quand je regarde ça aujourd'hui, j'ai l'impression de voir effectivement Zola. Quoi. C'est plutôt la fin du 19e. En fait.
Et c'était dur à vivre pour le petit garçon que vous étiez ou pas?
Non, en fait non. Il faut dire que non, parce que nos parents étaient extrêmement aimants. Donc on a, ils nous aimaient d'un amour immodéré, j'allais dire. Donc on ne faisait pas attention à ça. C'était notre, comment dire, on n'avait pas d'autre désir que ça, puisqu'on ne connaissait pas le reste du monde.
Il y avait l'ambiance des cours déjà, parce que les cours,
oui,
comme on voit
sûr,
dans Marius et Jeannette, là où les gens sont tout proches.
Bien sûr, il y avait une immense solidarité. Enfin, tout le monde vivait donc ensemble. Les gens se parlaient d'une fenêtre à l'autre, d'une. Bon, on est dans le sud aussi, ça veut dire que les portes sont souvent ouvertes, il fait très chaud. Au commencement, c'était le climat, vous savez, c'est ce que dit Marx. Et on commençait à être de plus en plus... Enfin, on avait l'impression, on ne connaissait pas d'autres manières de vivre que celle-là. Mmh. Donc on ne le concevait pas comme une situation malheureuse. Mmh. C'était la situation dans laquelle tout le monde vivait. Ça ne nous empêchait pas donc de rire, de... Mmh. Nos parents étaient très vigilants, ceci dit, à l'alimentation, donc on mangeait très très bien... Bon, mmh. En plus, dans ce monde-là, les femmes cuisinaient beaucoup, donc on mangeait de très bonnes choses, très cuisinées. Notre alimentation, notre santé était très, très, très surveillée.
Mais Robert Guédiguian, comment vous étiez perçu par les autres autour de vous? Parce que vous aviez un père arménien et une mère allemande, originaire de Larour. Et là, on est dans l'après-guerre. Vous avez été moqué, vous avez été considéré comme l'étranger.
Un petit peu. Pas bizarrement, en fait, parce que c'est assez rare qu'on parle de, d'une forme de racisme anti-allemand. En fait. En tout cas, aujourd'hui, ça semble absolument ahurissant. Mais bon, j'étais blond aux yeux clairs. Mais les enfants savaient que... Ils entendaient ça chez eux, je pense. Ils savaient que ma mère était allemande. C'était effectivement pas loin, 53, c'est donc quelques années après la fin de la guerre.
On utilisait encore le mot Bosch à l'époque.
Voilà, ils disaient les Bosch, etc. Voilà, les frigolins, les frites, je sais quoi. Et du coup, il m'est arrivé, c'est vrai, j'ai des souvenirs comme ça, de m'être battu à la sortie de l'école parce que des gamins, d'autres gamins avaient dit... souvent avec qui je suis très ami aujourd'hui d'ailleurs, mais avait dit des choses pas très jolies sur ma mère. Enfin, voilà.
Mais vous aviez le sentiment d'être étranger ou vous étiez déjà complètement marseillais?
Ah non, je dirais pas étranger, non, je dirais pas ça. J'étais déjà, je crois, tout à fait marseillais. Je voyais mes grands-parents arméniens aussi, mais ça, c'est une caractéristique, en tout cas, marseillaise de ces temps-là. Peut-être que ça l'est encore un peu aujourd'hui. Marseille intègre quand même très très vite et très fort. Je veux dire, à travers justement la structuration de la ville en quartier, quoi.
C'est une ville qui a l'habitude d'intégrer tous les étrangers qui arrivent.
Oui, c'est ça. Et je n'étais même pas marseillais, j'étais de l'Estac, enfin, j'étais de ce quartier-là.
Parce que dans vos films, on sent votre amour pour Marseille, et notamment pour l'Estac. Vous avez tourné plusieurs films à l'Estac. Ça vient de là, ça vient de cette enfance. Il y a toujours quelque part en vous.
Bien sûr.
Quoi, c'est une nostalgie?
C'est pas une nostalgie, c'est que je crois qu'on a un imaginaire qui se forme quand on est enfant et qui est là une fois pour toutes, hein, qui ne nous quitte jamais. En fait, je n'ai jamais habité que là. Voilà. Là, aujourd'hui, on se voit, on est à Paris. Mais je n'ai jamais habité à Paris, alors que ça fait 50 ans que j'y vis.
Alors ça m'étonne.
Mais parce que j'ai habité, dans mon imaginaire, j'ai habité effectivement toujours au même endroit. Et je regarde le monde, en fait. Bon. Après, je regarde le monde du même endroit. C'est-à-dire de l'endroit où je suis né. De l'Estac, en fait, de ce point de vue-là.
Vous êtes toujours de là-bas.
Le point de vue, c'est l'endroit d'où l'on regarde, tout simplement. Et ce point de vue-là, j'ai essayé. Alors, c'est vrai que d'abord, j'y étais très attaché. Et deuxièmement, après, j'ai essayé, c'est vrai, de le conserver. Je tiens à regarder le monde toujours, j'allais dire, d'en bas. Voilà. Du côté des pauvres gens, j'allais dire. J'essaie de pas. Même si ma situation sociale n'a rien à voir aujourd'hui avec la situation, effectivement, de mon père, par exemple, de Jacques.
Et ça, vous n'avez jamais oublié d'où vous veniez?
J'ai même, c'est même pour moi, je pense, de l'ordre psychanalytique d'abord et politique ensuite, c'est-à-dire je ne veux pas oublier.
Donc du coup, pour revenir à ma question initiale, votre conscience sociale et politique, elle s'enracine là?
Ah oui.
Dans cette enfance, dans père ouvrier et milieu pauvre, quoi.
Milieu pauvre et en même temps organisé quand même en rébellion, hein, c'est-à-dire que c'est aussi un quartier dans lequel il y a 85% de vote communiste au premier tour des législatives. Le député qui s'appelle François Billou, qui a été ministre à la Libération, que j'ai bien connu d'ailleurs, était élu, je crois qu'il était élu pendant 30 ou 40 ans au premier tour, sans aucun problème, très très simplement. Donc aussi un milieu pas maintenant révolté, hein, c'est-à-dire un milieu qui avait conscience de lui-même, qui avait une conscience de classe, comme on disait à ce moment-là.
Visage, l'expression de l'être.
Alors Robert Guédiguian, il y a un homme qui a beaucoup compté, je dirais, dans votre prise de conscience aussi politique, hein, vous le dites dans ce livre « Les lendemains chanteront-ils encore », c'est Albin Mélan.
Oui.
Alors, ceux qui connaissent votre cinéma connaissent bien Gérard Mélan, qui est votre alter ego, hein, on dirait, qui est comédien, on en parlera un moment. Mais j'aimerais que vous me parliez de son père. Il a compté pour vous, visiblement.
Oui, c'est énorme.
C'était quoi, votre instituteur?
C'était au sens, j'aime bien le mot maître d'école, alors, d'ailleurs, comme on disait aussi à ce moment-là. Et c'était, donc, c'est mon maître, en fait. Mais comme, j'aime bien le terme maître, en fait. Je l'aime bien dans le compagnonnage, je l'aime bien dans la menuiserie, mais je l'aime bien dans l'université, j'aime bien effectivement le rapport qu'on a à un maître, en fait, qui souvent d'ailleurs, les bons maîtres sont modestes et apprennent aussi de leurs élèves, bien sûr. Mais cette dialectique maître-élève me plaît, voilà, c'est mon maître.
Il a été votre maître en politique, pas simplement pour vous apprendre à écrire et à lire.
Bien sûr, en politique, surtout en politique d'ailleurs, en fait, parce que très très vite, j'ai considéré que cet instituteur, donc, comme ils étaient à l'époque extrêmement orateurs, ils parlaient une langue très 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 belle, très pure, et donc c'était de bons orateurs, et ils avaient une culture générale mais immense, Albert Mélin lisait quasiment un roman toutes les nuits. Il était un peu insomniaque, donc il lisait presque un roman toutes les nuits. Enfin, donc, il écoutait la musique classique, toutes choses qui n'existaient absolument pas. C'est-à-dire, ça a été ma bibliothèque, ça a été ma discothèque, ça a été, il m'a tout appris, quoi. Les cultures du monde, il m'a appris. Ça a été mon encyclopédia universalis.
Je comprends mieux maintenant pourquoi dans vos films, on voit toujours ça, en fait, que la culture n'est pas réservée à la bourgeoisie et qu'on peut être ouvrier, simple, et aimer la littérature, aimer des petits Cohen japonais, par exemple.
Bien sûr.
Même si on est ouvrier.
Bien sûr. Ça me semble tellement évident. D'abord, je l'ai vu en pratique autour de moi. Mmh. Et puis, c'est vrai que l'éducation populaire a amené la culture au peuple, en fait, c'est une grande ligne directrice de tous les milieux culturels à la libération. Mmh. C'est-à-dire la libération jusqu'aux années, on va dire, 80. Bon, Jean Villard, bien entendu, le Festival d'Avignon, Jean Villard, le rapport avec les comités d'entreprise,
le Théâtre National Populaire, les maisons d'éducation populaire,
le TNP, le CNP, c'est vrai, le Cinéma National Populaire, les cinémas RSC, les ciné-clubs.
On a l'impression que c'est du passé, tout ça,
Robert Guédiguian. Mais oui, ça, j'avoue, je le regrette. Hein. Mais effectivement, c'est du passé. Il existe quand même toujours des programmes de cinéma dans les écoles, dans les lycées, il existe toujours des salles d'RSC, il existe toujours des gens qui font un travail d'animation extrêmement fort.
Et vous êtes habité par ça depuis toujours.
Je crois que c'est une nécessité absolue. Pas, ça fabrique de la cohésion sociale et puis ça fabrique de l'apprentissage du monde. Ça sert à montrer en fait que tout le monde ressemble à tout le monde. Enfin, ça sert à montrer que le monde est partout. Moi, je trouve que ça sert à avoir un rapport à l'universel. De voir effectivement que des... Puis si on va au cinéma et qu'on voit que que les problèmes en fait liés à la vie, à la mort... à nos tragédies existentielles, ou à nos bonheurs, hein, d'ailleurs, la naissance, bien sûr, pas que la mort, la naissance, le mariage, l'amour, en fait. On se dit quand même que, indépendamment de toutes les formes que ça prend dans différentes cultures, dans la substance, c'est la même chose, en fait, voilà.
Robert Guédiguian, c'est Albin Mélan qui vous a un peu encouragé à rentrer au Parti communiste à l'âge de 14 ans. Vous êtes devenu membre du Parti communiste français à 14 ans. Et vous êtes resté, je crois, jusqu'à 27 ans, à peu près. Mais c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier?
Oui, pas de manière directe du tout. C'est-à-dire, c'est évident que je voulais, comme j'allais dire, c'est ça, c'est la belle dynamique, je voulais dépasser le maître. Donc, je voulais effectivement être aussi communiste que lui, plus communiste que lui, et éventuellement, apporter encore plus que ce qu'il avait apporté lui au mouvement ouvrier. Donc il m'a pas dit carrément, Robert, tu vas prendre la carte avec nous. Il était beaucoup trop intelligent pour parler de cette manière-là, beaucoup trop fin.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'entrer au Parti communiste?
Mais de manière... ça s'est fait, j'allais dire, extrêmement... naturellement, il y a une espèce de... J'ai vécu là-dedans, en permanence. Bon, évidemment, mon père n'était pas militant, mais il a toujours voté communiste. Donc c'est une évidence, c'est une espèce de quelque chose de... Voilà, c'était comme... J'allais presque dire, c'est comme mon langage, en fait, le communisme. C'était une manière de parler, une manière d'être, une manière de se comporter avec les autres, une manière d'accompagner, d'ailleurs, les plus faibles à l'intérieur du quartier. J'étais un communiste pragmatique, d'abord. C'est-à-dire, j'étais un communiste de tous les jours. Ce que je revendique aujourd'hui, d'ailleurs. C'est-à-dire un communiste qui, quotidiennement, était communiste. Quand il parlait à son voisin, voilà. Et qui lui posait des questions.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire qu'il lui demandait comment il allait, voilà. Et qu'éventuellement, si ce voisin-là disait, ça va pas très bien parce qu'il se passe ça, ça et ça, il l'aidait. Il l'aidait de toutes les manières, en disant, je peux peut-être te faire ça, si tu veux, ça t'arrange, je fais ça, voilà.
Mais t'as essayé d'être communiste, d'être fraternel, en fait? Parce que c'est ce
clair.
Que vous venez de me
c'est
dire,
clair, c'est mais, c'est clair, mais alors on va faire une distinction théorique extrêmement importante. Alors oui, je pense que la fraternité est une donnée... D'ailleurs, vous savez que... On a un peu oublié ça, mais la tradition du salut... Dans le Parti communiste français, c'était fraternel en salutation. On signait les lettres, on finissait les textes, fraternel en salutation. Mais on n'est pas frère avec tout le monde. C'est-à-dire, il faut relativiser cette fraternité avec ce qu'on appelle la lutte des classes. Parce que vous savez qu'en fait, au fond, j'allais dire, la révolution qu'opère Marx lorsqu'il écrit le manifeste du Parti communiste, dans le mouvement ouvrier qui existe à ce moment-là, et c'est vraiment Marx et Engels qui font ça, tous les deux, la Ligue des Justes, effectivement, avec comme mot d'ordre, nous sommes tous frères. Et il y a un congrès, juste avant l'écriture du manifeste du Parti communiste, en 1847, où Marx dit, mais enfin, je suis Nous ne sommes absolument pas les frères des gens qui nous exploitent, des gens qui nous font travailler dans les mines, des gens qui nous font travailler les enfants le dimanche, des gens qui nous font travailler la nuit, jour et nuit, qui ne nous nourrissent pas. Non, ce ne sont pas nos frères. Donc il a remplacé le mot d'ordre en disant « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Et la Ligue des Justes s'appelait-elle, s'appelait, oui, à ce moment-là, la Ligue qui était internationale déjà un petit peu, hein, qui était surtout en Belgique, en Angleterre et en France, un petit peu. Et c'est devenu la Ligue, la Ligue communiste.
Alors Robert Guédiguet…
Donc vous voyez, fraternité, mais fraternité de classe.
Mais de classe. Alors c'est ça qui vous sépare finalement de l'Évangile, parce que vous dites qu'il y a deux grands livres.
Oui.
Vous le citez, vous le dites clairement. Il y a deux grands livres pour moi, le Manifeste du Parti communiste et l'Évangile selon saint Matthieu. Et je vais être franc, Robert Guédiguian, ça fait des années que je vois vos films, et chaque fois je me dis, mais en fait, c'est des valeurs christiques, des valeurs chrétiennes qu'il exprime à travers ses films. Des valeurs communistes et des valeurs chrétiennes.
Mais c'est très proche. C'est très proche. De toute façon, si vous voulez, là, évidemment que cette idée-là, enfin, l'idée communiste est quand même née, je veux dire, on va dire quoi, le début de ces idées-là, c'est avec la Révolution française, et puis après ça se développe beaucoup dans la première partie du 19e siècle, ça se développe en Europe, ça se développe en milieu, sur un humus, on pourrait dire, judéo-chrétien. Mm-hmm. Ouais, c'est clair. Donc tout ça, c'est une évidence. Après, j'ajouterais que, à part il y a ce détail sur la fraternité. Mais d'ailleurs, l'Église elle-même n'a pas toujours été aussi, est devenue marxiste, hein. C'est arrivé très, très souvent. Enfin, moi, quand on me parle de théologie de la libération.
Ou les prêtres ouvriers. Il y en avait, j'imagine, dans votre quartier.
Ben, j'en avais un dans l'entreprise où je travaillais avec mon père, d'ailleurs, avec qui j'étais très ami, qui était très militant, qui était le délégué CGT, d'ailleurs.
Ils étaient chrétiens et marxistes au nom de l'amour du prochain.
Mais vous savez ce que disait l'archevêque de Récif,
qui était
grand, oui. Voilà. Il disait, c'est drôle, parce que quand je dis qu'il y a trop de pauvres, effectivement, on me dit que je suis chrétien. Quand je dis, mais pourquoi sont-ils pauvres, on me dit que je suis communiste. C'est ça qui nous... qui fait la distinction. Elle est ténue, parce qu'effectivement, pour prendre la théologie de la libération, par exemple, en Amérique du Sud, enfin, Camilo Torres, qui avait des armes à la main. Donc, même des bénédictins pendant la résistance, hein, qui tenaient des mitraillettes. Bon, ce qui, a priori, ne semble pas très catholique, si j'ose dire, mais et avec un peu d'humour.
Mais Robert Guédiguian,
c'est très proche.
Comment vous vous situez, finalement?
Jésus chasse les marchands du temple, par exemple. Évidemment, ça me plaît beaucoup.
Ça,
c'est pour moi, c'est le geste.
Cinématographique.
Ouais, oui. Cinématographique et révolutionnaire. Ouais. C'est formidable. Pasolini le fait, hein, dans l'article qui tourne dans l'Évangile selon saint Matthieu.
Alors justement, c'est un film que vous adorez, le film de Pasolini, l'Évangile selon Matthieu.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous l'aimez autant, ce film, vous?
Alors non, d'abord aussi, c'est pas que... Bon, d'abord parce que j'aime ce texte, j'aime l'Évangile en tant que texte littéraire, et parce qu'il raconte, y compris cette métaphore, je veux dire, l'idée que le Fils de Dieu se sacrifie et prenne tous les péchés du monde, enfin, c'est un très bon scénario. Hein.
J'aurais bien aimé avoir cette idée-là. Pour sauver.
Voilà,
parce qu'il y a un côté sauveur chez vous
donc,
aussi.
Je le dis avec un peu absolument, et justicier. Donc je le dis avec évidemment un peu d'humour, mais c'est vraiment un très beau scénario. C'est pour ça que je dis que c'est la plus belle histoire du monde. Et pourquoi? Alors, après, pourquoi Pasolini? C'est parce que Pasolini est. Mais follement inspiré, quoi. Je pense vraiment que c'est un de ses meilleurs films. En fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en général, y compris par ses écrits et tout ça. Mais ce film-là est aussi visuellement cinématographique, donc formellement, pour utiliser un mot que j'aime pas beaucoup, et exceptionnel.
Sta scritto, la mia casa sarà casa di orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladri.
Robert Guédiguian, j'aimerais bien, j'insiste un petit peu, mais ça m'intéresse de mieux connaître votre rapport à la religion, parce que vous parlez de la foi quand vous parlez du communisme, et vous parlez de la foi aussi quand on parle de spiritualité. Et puis j'ai lu un article où vous étiez interviewés tous les deux dans La Croix, Ariane Ascaride et vous, un peu autour de ces questions-là. Puis à un moment, Ariane dit, il est très religieux en fait, en parlant de vous. Vous avez eu quelle éducation religieuse ? apostolique arménienne par votre père ou catholique par votre mère allemande?
En fait, catholique, parce que, bon, à l'Estac, j'étais effectivement donc catholique romain et pas arménienne. J'ai connu l'église arménienne beaucoup plus tard.
Donc catholique par votre mère?
Oui. Puisque ma mère, en fait, venait de la seule région d'Allemagne qui est catholique, c'est-à-dire la Rhénanie. Massivement, ils sont protestants, les Allemands, je veux dire, là. Sauf cette région-là. Donc ma mère était catholique. Puis après, bon, le rapport à l'église, donc...
Donc là, vous vous êtes séparé de l'église quand vous étiez ado et que vous êtes rentré au Parti communiste?
Oui, j'ai fait ma communion, tout ça. Je ne suis pas séparé de l'église, j'ai fait ma communion, etc., tout ça. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu... Non, j'ai un problème avec... c'est pas un problème, je suis en même temps un rationaliste. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai très tôt les souvenirs hein, de gosse, quoi. Où j'ai toujours eu quand même... Et je ne crois pas à l'au-delà, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Ouais, c'est une espèce de chose. Voilà.
Pour vous, donc, tout s'arrête ici dans cette condition humaine.
Je ne crois pas à une autre vie. Mmh. Je ne crois pas à l'au-delà, mmh. Mais je crois qu'on continue à exister dans l'histoire. Donc, je crois qu'il y a une transcendance. C'est-à-dire, effectivement, d'ailleurs, on a des enfants. On écrit des films qui vont durer un petit peu, quelques temps, on peut supposer. On plante des arbres, comme dit le poème cubain là, que j'aime beaucoup. Mmh. Bon, donc on fait des choses qui durent. Alors, à travers nos productions. On survit, entre guillemets, d'ailleurs. C'est nos productions qui survivent. C'est pas tout à fait nous, voilà. Donc, je ne crois pas à ça. C'est là où je suis, effectivement. Je ne suis pas, donc, ce qu'on appelle philosophiquement un idéaliste. Je suis un matérialiste. Je m'empêche pas.
D'accord. Mais il y a des idées dans les traditions religieuses, comme dans le monde politique, qui vous animent, visiblement.
Bien sûr. Bien sûr. Le fait que l'humanité est une et indivisible, par exemple, c'est une chose qui me touche beaucoup. Mais si on y va par là, c'est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Donc l'unité.
Et ça, la religion, dans ses aspects d'ailleurs dogmatiques, considère ça, même si certains le contestent aujourd'hui.
Et la dimension du sacré, parce que je sais que vous n'aimez pas beaucoup le mot de religieux,
oui,
mais vous aimez le mot de sacré.
Oui, je préfère.
Alors, est-ce que le cinéma participe au
sacré? Ah oui, je pense qu'il est très proche. Parce que, alors ça, Pasolini en parle mieux que moi, mais c'est vrai que le cinéma a... Parfois, je veux dire, dans certains plans, dans un film, dans certaines images, donc, il y a quelque chose qui dépasse le sens que cette image, le rôle qu'elle joue dans l'écriture du film et dans la narration. Donc, il se passe quelque chose de tout autre, comme on dit en histoire des religions. Hein. Il y a une espèce de, oui, d'hiérophanie, hein, de manifestation, comme ça, du sacré.
Henri Hagel, qui est écrivain de cinéma, avait une magnifique expression. Il parlait d'un art de célébration quand il parlait du cinéma.
Oui, oui. Il y a des plans de ce type-là. Voilà. Mm-hmm. Je sais, j'ai regardé la fin de Gloria Mundi il y a deux jours parce que j'ai fait un débat et je suis rentré. J'ai vu les cinq dernières minutes. Bon, les derniers plans de Gloria Mundi sont iconiques, en fait, c'est quelque chose de... Bon. Donc, il raconte quelque chose de sacré, il raconte la vie, le rapport à la mort, on revit tout ce qui s'est passé dans le film, dans ces plans-là, donc il raconte, oui, quelque chose, la sacralité de l'existence.
Et c'est pour ça que vous avez décidé de faire du cinéma, Robert Guédiguian?
Non.
À l'époque, c'était pas encore en vous, ça?
Non. Oui, ça l'était probablement, mais je n'envisageais pas, je n'ai pas envisagé pendant longtemps de carrière artistique, en fait. Je n'ai pas eu une vocation, on va dire, artistique. Hein.
Vous vouliez être chercheur, je crois,
oui.
C'est ça? Chercheur en quoi?
En sciences sociales, forcément, c'est-à-dire en histoire, en économie, en fait, je faisais des... Donc je voulais être un intellectuel communiste, comme je dis souvent. Je dis bien communiste, hein, c'est-à-dire pas un intellectuel tout court. Un intellectuel en liaison avec des masses populaires, avec des gens qui... En liaison avec une pratique, quoi, pour être très simple. Voilà. Ouais. Donc pas un intellectuel dans sa tour d'ivoire qui étudie en permanence les mêmes textes, ce que je trouve noble par ailleurs. Hein. Mais ce n'était pas ma manière à moi. Je voulais être un intellectuel dans l'action aussi. Quoi,
voilà. Et c'est ce que vous êtes, non, avec le cinéma.
Oui,
vous êtes devenu
ce que je fais. Oui,
un
oui,
intellectuel,
je
réalisateur de films. Et est-ce que c'est un acte politique pour vous de faire un film?
Oui. Oui, je suis retombé sur mes pattes, en fait. Voilà. Le hasard a fait que j'ai quitté donc l'université et mes études et la thèse que je suis en train de terminer pour beaucoup de raisons, mais la raison essentielle, c'est qu'effectivement, j'ai été violemment en désaccord à ce moment-là avec le mouvement communiste international. Donc voilà. Je suis parti sur la pointe des pieds, j'étais très, je pourrais dire, perdu. déboussolé, bouleversé, que je n'avais plus, j'avais qu'un vécu, c'était ce qui structurait ma vie, quoi, voilà. Et de plus avoir ça, j'étais tout à fait désemparé. Et là, je dis souvent, et là, le cinéma est passé par là, voilà. Hasard total.
Il vous a sauvé du désenchantement politique.
Complètement.
On peut dire ça comme
ça. Ah oui, tout à fait. Je pensais même que je me suis jeté de manière obsessionnelle. Je sais que je suis jeté obsessionnel, mais je l'étais en politique et je suis devenu obsessionnel en cinéma. J'ai pris ce train en marche qui passait pour me sauver, oui.
Robert Guédiguian, l'engagement répond à un besoin d'idéal, vous dites dans le livre « Les lendemains chanteront-ils encore ?» L'engagement répond à un besoin d'idéal. Vous aviez ce besoin d'idéal, mais il a été mis à mal, ce besoin d'idéal.
Oui.
Les réalités que l'on a apprises du communisme en Russie, avec les goulags, l'invasion de la Tchécoslovaquie, les communistes, vous en avez quand même pris plein la gueule, si je peux me permettre l'expression.
C'est horrible.
Votre idéal, il s'est effondré, quelque part.
Non. Parce que, si vous voulez, comme je le disais mais déjà dans un texte d'il y a 30 ans, pour moi, le être communiste, d'abord, je vous le rappelais tout à l'heure, c'est une pratique de tous les jours, c'est-à-dire c'est une éthique, c'est une... Et là, je rejoins aussi, c'est comme si je disais, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, quoi. Mm-hmm. Je crois qu'être chrétien, c'est être chrétien tous les jours. Ce n'est pas forcément croire au paradis, c'est se comporter comme un chrétien tous les jours. C'est bon. Avec un texte à l'origine de ça, donc du côté des évangiles, du Nouveau Testament. Bon. J'allais dire être communiste, je trouve que c'est un peu pareil, quoi. Je pense être communiste tous les jours, avec un texte, qui est un petit peu, c'est vrai, le texte originel de ça, qui est évidemment le manifeste du Parti communiste. Et le manifeste du Parti communiste, je conseille à tout le monde de le relire aujourd'hui. C'est un texte qui a gardé, bien sûr, qu'il faut adapter. Mais je crois que l'évangile doit être adapté aussi, bien entendu. Il faut arriver à distinguer un ensemble de, une conception du monde, une conception de la morale, une conception de la vie, et ce que certains, à partir de cette conception, ont fait. Voilà, ça, en ce moment, on le vit tous les jours. C'est vrai que pour moi, de la même manière que Pol Pot n'a rien à voir avec Karl Marx, de la même manière, évidemment, les types qui ont mis des bombes au Bataclan n'ont rien à voir avec le Coran. Voilà, de la même manière, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Donc je ne peux pas jeter les rêves des hommes, le rêve d'émancipation, le rêve de réconciliation, le rêve
de bonheur, d'harmonie,
de bonheur sur Terre. En fait. Je ne peux pas jeter tous les gens qui ont pensé à ça avec les gens qui, à partir de là, sont allés vers l'exclusion de tous les autres, jusqu'à l'exclusion, l'extermination. Bon, bien entendu. Donc c'est une chose qu'il faut que nous continuions à penser. Mais il y a quelque chose d'ailleurs aussi qui est de l'ordre de... Vous savez, c'est après la Shoah. Il y a quelque chose qui... Il y a une impensée de l'humanité quand même.
Robert Guédiguian, on va parler cinéma maintenant, oui, ensemble, autour de la manière dont vous travaillez un film, vous réalisez un film, vous êtes réalisateur de cinéma, et vous dites « Travailler en groupe, c'est une affirmation politique de la primauté du collectif sur l'individu. » Ça veut dire que pour vous, réaliser un film, c'est, je dirais, un peu l'incarnation de ce qu'on vient de dire, du communisme en acte.
Oui. Oui, c'est un moment communiste. Même assez, quand ça se passe bien, ça se passe pas toujours bien. Et moi, ça se passe souvent bien. Mais je produis aussi d'autres films où ça se passe moins bien. Je veux dire, bon. Mais quand tout va bien sur un film, je crois qu'il y a quelque chose... Alors, la chose idéale sur un film, c'est que tout le monde a une capacité, une spécificité et une qualification extrêmement particulière, extrêmement pointue. Et donc se réalise dans ce qu'il fait. Et en même temps, il se réalise dans ce qu'il fait dans un projet collectif.
Mais c'est pour ça que c'est,
Pour moi, c'est ça le communisme, en fait. C'est-à-dire qu'une société et des individus vont dans le même sens. Et ça dure ce que ça dure.
Et ils se réalisent dans leur action.
Bien sûr. C'est le plein épanouissement. Comme dit cette phrase d'ailleurs de Marx, qui est très peu connue, mais qui dit quand même que le communisme, c'est le plein libre développement de l'individu.
Mais est-ce que c'est pour ça, Robert Guédiguian, que vous travaillez, je ne veux pas dire presque toujours, mais en famille, en équipe, avec souvent les mêmes acteurs, avec les mêmes techniciens?
Oui, parce qu'ils ont le même désir que moi de fabriquer un moment communiste, en fait, j'allais dire. Je dis bien un moment, puisque quand le film s'arrête, ce moment a disparu. Enfin, il en reste une trace, je veux dire, bien entendu.
Bon. Et qu'est-ce que c'est un moment communiste pour vous?
C'est ce temps-là. Alors, moi, je pense qu'il y a des... C'est les 3 mois d'un film, par exemple, de fabrication d'un film. Mais ça peut être les 2 ans de début d'une nation. Hein. Ça peut être, donc, ça peut être une entreprise coopérative. Mm-hmm. Peut-être les gens à Marseille qui ont repris, par exemple, le thé, les tisanes, là, ça a été un long combat, les thés de l'éléphant, là, qui a, bon, ils ont fait une coopérative, ça fait 5 ans qu'elle fonctionne, ils sont 70, c'est un moment communiste, ça fait 5 ans qu'il dure. Peut-être que demain, je touche du bois, mais peut-être que demain, ils feront faillite, et ce moment communiste aura duré 5 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, il m'importe pas de savoir que ça s'institutionnalise, que ça dure que c'est la fin de l'histoire et que c'est planétaire. Mmh. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de plus en plus de moments, donc des moments heureux et réconciliés entre le groupe et l'individu, entre la société et l'individu.
Qu'est-ce que vous attendez de vos acteurs quand vous tournez? Parce que vous tournez souvent. Allez, il y a 3 acteurs qu'on voit presque dans tous vos films. C'est Ariane Ascaride, votre épouse. C'est Gérard Mélan. On présente souvent un peu votre alter ego, quoi.
Oui, oui.
Et qui est pas du tout professionnel, hein, qui était infirmier jusqu'à ce qu'il soit à la retraite et qui tourne pratiquement dans tous vos films. Et puis il y a Jean-Pierre Darroussin. Il y a ces 3-là. Après, il y en a d'autres qu'on voit assez régulièrement, comme Anaïs Desmoustiers, Jacques Boudet. Donc, eux, on les voit apparaître assez souvent. Mais qu'est-ce que vous attendez de vos acteurs?
Ah, je crois que l'acteur, c'est le... Bah, si je peux dire comme ça, je cherche des formules, hein, mais je veux dire, c'est le corps du cinéma, l'acteur. Donc c'est lui qui est là, hein, c'est lui qu'on voit, quoi. Le cinéma, c'est l'acteur, quand même. C'est évidemment, on peut faire de la...
Mais certains vont vous dire que c'est le réalisateur qui dirige ses acteurs.
Oui, non, en fait, d'ailleurs, diriger est un terme un peu impropre.
Vous n'aimez pas, c'est pas communiste comme expression.
Non. C'est un peu... Non, mais diriger, là, se supposer que... Le réalisateur serait dépositaire, en fait, de quelque chose sur un film, donc du sens d'un film, et qu'il faudrait faire en sorte, là, avec une baguette, que tous les acteurs, comme un troupeau, aillent dans le même sens. Mmh. Évidemment, c'est absurde.
Oui, mais vous, en tant que réalisateur, acteurs, vous avez bien une idée de la scène.
Non,
vous l'avez
j'ai un pressentiment.
Ah, si, quelle différence.
C'est pas pareil. Ouais. Mais non, j'ai un pressentiment. J'imagine des choses et je de manière du point de vue comme ça, j'ai des visions, des imaginations, des prévisions, des pressentiments, mais je ne sais pas ce qui va se passer, comment elle va se construire. Donc les acteurs, ils m'amènent le corps de la scène, c'est énorme.
Donc c'est eux qui vous apportent en fait l'incarnation de votre pressentiment.
Oui, si je peux dire et qui le modifient en apportant, parce que je suis souvent, d'ailleurs je ne fais jamais de répétition pour cette raison-là précisément, parce que je veux être surpris, je ne sais pas le matin en arrivant sur le plateau ce qu'ils vont faire. Et je dis, c'est tout ce que...
Mais les dialogues sont écrits quand même.
Non, bien sûr, c'est tout.
Ils ont leur dialogue, mais vous ne savez pas comment ils vont jouer ça.
Il y a une infinité de manières de jouer n'importe quel dialogue. On peut jouer Tchekhov de millions de manières. Donc ça, je ne sais pas. Donc cette part-là, elle est considérable. Moi, j'arrive sur le plateau le matin, je ne sais pas du tout. Bien sûr qu'il y a un texte. Je sais qu'on va tourner, d'ailleurs, tout est organisé. On sait qu'on va tourner telle scène et pas celle-là, la scène numéro 3, qu'on va la commencer à l'extérieur et qu'après on passe à l'intérieur. Bon, tout ça est prévu.
Mais il y a bien des moments où vous dites, on la garde, je parle de la scène, ou on la garde pas.
Ah non, mais bien sûr. Mais dès qu'un acteur a proposé quelque chose, on continue à affiner après. Parce qu'on peut dire, oui, c'est super, mais il faut aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus vite, un peu plus lentement, voilà. Je dis souvent que ça ressemble un petit peu à la danse, moi, je trouve. Ça ressemble plus à la danse, que c'est pas une approche théorique à ce moment-là, c'est pas une approche dramaturgique, c'est une espèce de sentiment, de sensation. Il y a une danse, c'est comme une danse de salon, quoi. C'est comme si on valsait avec un acteur, voilà. Et on le fait, là, on le fait bouger. Mais il a d'abord fait sa proposition d'interprétation. Voilà, donc si, d'ailleurs... C'est une règle absolue, moi je conseille ça à tous les jeunes cinéastes, si je peux me permettre. Mais il faut toujours laisser parler les autres, il ne faut jamais dire ce qu'on veut. Si tant est qu'on veut quelque chose de très précis. Mais il faut pas. Alors, il y a des débutants qui font un semblant de savoir ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Ils ne savent pas vraiment, mais ils font comme si. C'est parce qu'ils ont peur, ils paniquent. Bon, il faut laisser faire les gens, quoi. Il faut laisser faire les gens pour qu'ils puissent vous amener quelque chose. Si je dis à un acteur, ou un technicien d'ailleurs, on va faire ça, ça et ça, il va exécuter mes ordres. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Donc c'est la même chose. Sur le tournage, vous faites confiance aux techniciens, à l'éclairagiste, aux preneurs de son.
Voilà, on a des bases de discussion, mais après, ils me proposent quelque chose. Après, c'est vrai que, entre citations, je veux dire, Capra, que j'aime beaucoup, disait metteur en scène, c'est dire oui ou non. Voilà, j'aime beaucoup cette expression. Ça veut dire que les techniciens et les acteurs, et le scénariste même, Adamo, vous proposent sans arrêt les choses. Voilà. Mais il faut les laisser proposer. Donc ils proposent, et nous on dit oui, ça non, éventuellement on dit ça oui, mais, ça non, mais, voilà. Et donc on est une espèce de... On organise un peu les apports comme ça de chacun.
Alors j'aimerais qu'on parle de Robert Mélan, parce que pour moi il est...
Gérard.
Pardon.
C'est là-dessus, c'est intéressant.
C'est l'alter ego, oui, c'est pas mal. Gérard Mélan, j'aimerais que vous me parliez de lui. En quoi il est si proche de vous ?
Ben je crois, je ne sais pas, vous m'obligez presque à une psychanalyse sauvage, là, une auto-analyse sauvage, mais c'est peut-être par son père, hein, je veux dire, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si son père avait eu deux fils, quoi, voilà, je ne sais pas. Gérard dit souvent d'ailleurs que j'ai plus probablement piqué de choses à son père, profité de son père, que lui. Il adorait son père aussi, hein, c'est pas, on était tous très proches. Mais au fond, après, c'est ça les mystères, en fait, de aussi de la vie et de la biographie.
Mais c'est pas son père que vous faites jouer, c'est lui.
Ah non, bien sûr, c'est lui.
Et c'est lui qui n'est, j'insiste un peu là-dessus, qui n'est pas acteur professionnel, qui n'a jamais voulu le devenir, qui est resté infirmier toute sa vie et qui tournait avec vous.
Mais j'ai pensé qu'effectivement, c'était, qu'il incarnait parfaitement, en fait, des choses que je prêtais à tel ou tel personnage, et qui, évidemment, c'est des personnages qui me sont très proches, bien entendu. Dans le dernier film, dans Gloria Mundi, par exemple, c'est vrai que ce personnage qui sort de prison et qui a du surplomb par rapport à tout le film, c'est un peu le metteur en scène du film. Voilà. Donc c'est vrai qu'en général, Gérard joue des choses qui sont...
Intimes. C'est
qui sont de l'ordre d'intimité.
Intimité.
Tout à fait. Après, c'est vrai qu'on a grandi ensemble, quand même, avec ce maître d'école, donc, qui était son père et qui était mon mentor. Et c'est vrai qu'on était, justement, comme vous l'avez fait tout à l'heure, je veux dire, encore aujourd'hui, hein, on marche tous les deux dans le quartier de l'Estac. Hein, et les gens nous arrêtent et ils me serrent la main à moi, ils disent bonjour Gérard, et à lui, ils disent bonjour Robert. Ils se trompent, quoi, ils oublient, ils font pas gaffe. Nous, on ne démarre même pas, c'est marrant. Et on continue, voilà.
Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux.
Oui, c'est vrai. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus.
Il a tué des gens ?
Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait.
C'est du prénom, ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda ?
3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer, comme d'hab.
Tu es libre ?
Ah, je suis pas un taxi, monsieur.
Je suis comme vous, faut que je bouffe, bordel !
On va vous prendre à la petite, comme ça vous aurez pas la nourrice à payer.
Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non ?
Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous ? Parce qu'on veut réussir.
Pensez qu'à vous.
On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins que rien.
J'aime bien me promener avec elle. Je lui raconte de belles histoires, les histoires que je t'ai pas racontées.
Tu vas rentrer chez toi avec Nicolas, hein ? Tu vas dîner en amoureux. Pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque.
Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on ne se tient pas les coudes, tout disparaît.
Pas vrai, Gloria ?
Robert Guédiguian, on a parlé du moment communiste qui est pour vous le tournage d'un film, mais j'aimerais me tourner vers le patron maintenant, parce que vous êtes aussi patron.
Oui.
Vous êtes patron d'une boîte de production, hein, qu'on appelle Agathe Film. Comment, en tant que patron, vous essayez d'incarner les valeurs communistes qui sont les vôtres ?
C'est assez...
Je devrais aller faire une enquête dans l'entreprise. Mais bon, là, je m'adresse au patron.
Non, vous pouvez, je vais dire toute la vérité. Non, je pense que, bon, c'est très, tout simplement, par le plus de partage possible, par des choses très, très concrètes, hein, par une échelle des salaires qui est, aucun candidat à la présidentielle n'a jamais proposé ça, même le candidat le plus de gauche, enfin, nous, une échelle des salaires qui va de 1 à 4.
Ah oui, alors que le candidat dont vous faites allusion, lui, il parle de 1 à 20, voilà. Michel Deschalel. Voilà. Vous, c'est de 1 à 4, entre la femme de ménage.
Oui.
Et vous,
oui.
C'est de 1 à 4.
4 des 4. Ce qui est déjà beaucoup. 4 fois le salaire d'un salaire de ménage, moi, je dis très bien. Mm-hmm. Alors bon, faut pas. Après, si vous voulez, par exemple, aussi, tout le monde gère son travail un peu comme il l'entend. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a jamais eu de pointeuse, évidemment, chez nous. Les gens viennent, et si quelqu'un préfère arriver à 10h et partir à 19h, et l'autre préfère arriver à 9h15 et partir à 17h, grosso modo, bon, il faut quand même être là dans les horaires où le cinéma en général fonctionne, pour avoir des contacts téléphoniques, etc., les courriers et tout. Mais grosso modo, il y a une grande liberté de ce point de vue, il n'y a aucune pression là-dessus, aucune surveillance, il n'y a aucun contrôle, et tout le monde gère son travail formidablement bien. Enfin, c'est une société qui est un peu une Rolls-Royce, je veux dire, la marche... sans aucun bruit, on peut poser une pièce sur le radiateur, je veux dire, ne tombe pas.
Et ça, combien de personnes, vous avez combien?
Ah ben c'est beaucoup, on a été jusqu'à 40, hein, je veux dire, une
40
quarantaine.
40 salariés ou intermittents du
alors,
spectacle?
Non, c'est plus ça, non, il y a 40 salariés, plus, si je fais un calcul, et si je rapporte l'ensemble des salariés de l'année en mettant les intermittents, et que je fais une moyenne mensuelle, à ce moment-là, on n'est pas loin d'une centaine, en fait, on est toujours entre 90 et 100, selon les années. Donc c'est une...
Moyenne entreprise.
Moyenne entreprise. Ouais. C'est une PME, mais c'est ME, quoi. C'est plutôt une moyenne entreprise. Ouais.
Et alors, vous, comment vous vous sentez dans votre rôle de patron? Puisque, on le sait, dans le marxisme, les patrons, les aiment pas trop.
Mais dans ces conditions-là, très bien. Je crois beaucoup, hein, l'entreprise. Je crois qu'une entreprise peut être aussi un moment communiste, en fait, selon comment elle est gérée. Donc, évidemment, nous, il y a des intéressements. Sur les 35 heures, on l'a fait bien avant qu'effectivement. On a fait un accord sur les 35 heures, bien avant qu'ils soient obligatoires dans les entreprises de moins de 50 salariés, 2 ans avant d'ailleurs. Un très bon accord, d'ailleurs, des meilleurs, d'Ixit, la CGT, du spectacle. Et donc, c'est des tas de choses comme ça. La mutuelle, par exemple, pour les salariés, parce que là, on parlait des salaires de 1 à 4, mais la mutuelle, c'est obligatoire aujourd'hui, hein, que les employés la prennent en charge. Mais nous, c'était obligatoire bien avant que ça existe et que ça passe, que ça entre dans les mœurs et dans la loi. On avait fait ça beaucoup plus, je crois, 5-6 ans avant. Donc c'est des tas de choses comme ça qui font que on partage quand même le plus possible, le mieux possible. On essaie, on vérifie d'ailleurs, on a adapté la société, ça fait 25 ans qu'elle existe, elle n'a pas toujours fonctionné de la même manière, mais on l'a adapté pour rester toujours dans quelque chose, effectivement, qui soit le plus collectif possible, et dans le partage des bénéfices, j'allais dire, et dans le partage de l'activité, dans l'épanouissement de chacun. Déjà, on a souvent aussi changé de poste, par exemple, dans cette société.
Et les gens restent? Il y a une fidélité? Ou il y a
un
retour de valeur?
Non, il y a des gens qui restent. On a des gens qui sont là depuis 20 ans aussi, 25 ans. Oui.
Et alors, comment vous situez-vous dans le monde du cinéma, quand même? Parce que pour beaucoup de gens extérieurs, le monde du cinéma, c'est le monde du fric, c'est le monde des paillettes, c'est le monde du showbiz, c'est la foire aux vanités, hein, pour reprendre une expression que m'a dit à ce micro Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes.
Oui, je connais bien.
Ouais. Comment vous vous situez-vous dans ce monde-là?
Moi, je me situe toujours... Vous savez, dans n'importe quel monde que je sois, je me situe dans une... Je suis dans une position de combat. Voilà.
Toujours.
C'est-à-dire, tout le temps. Ce qui ne veut pas dire que ça peut être très détendu, hein. C'est pas non plus, je suis pas sur les nerfs. Quand je dis combat, ça veut pas dire que je suis, recroquevillé, en position de garde et prêt à taper. C'est pas ça.
Alors, ça veut dire quoi, pour vous?
Quand je dis combat, c'est que j'analyse effectivement ce qui se passe autour de moi et j'essaie d'intervenir sur tout ce qui me plaît pas. De manière un peu systématique.
Et dans le monde du cinéma,
dans le monde du cinéma, je le fais bien sûr. Tout ce qui me plaît pas, j'interviens. Voilà, j'interviens. Je suis toujours intervenu. Parfois, je l'ai fait de manière d'ailleurs tout à fait, officielle, c'est-à-dire syndicale, je sais quoi. Enfin, j'étais président de la société des réalisateurs de films, etc. Bon, des choses comme ça. Parfois, je le fais par une tribune, dans la presse, ou parfois je le fais même par l'exemple, c'est-à-dire je dis non, est-ce que ce qui se passe là ne m'intéresse pas, et moi, je ne le ferai pas. Voilà. Bon, donc on peut tout à fait avoir une. Et puis aussi par quand même une forme de retrait d'un certain nombre de choses. J'ai toujours été très vigilant à ne... Enfin, vous ne me verrez pas dans la tribune de Roland-Garros, quoi, par exemple. Hein,
mais on vous voit au Festival de Cannes, par exemple.
Au Festival de Cannes, c'est une manifestation de cinéma.
Ouais.
Alors là, oui. Une manifestation de cinéma, je suis tenu d'y aller. Donc j'y suis allé très souvent, d'ailleurs. Mais ça, c'est normal. Mais des manifestations autres, donc on peut qualifier de mondaines, en fait. Bon, je suis invité à la tribune à Roland-Garros depuis 20 ans. Je n'y vais jamais. En fait, j'ai envie d'y aller d'ailleurs. Parce qu'au fond, c'est formidable d'être à la tribune de Roland-Garros pour voir le spectacle.
Alors, vous n'y allez pas par principe.
Je pense qu'il y a une espèce de compromission à y aller. Je ne veux pas aller avec les patrons des chaînes, avec les chaînes de télévision, avec qui parfois j'ai de très bons rapports. Hein,
mais quand ils passent vos films à la télévision, vous êtes content parce que ça touche un public.
Bien sûr, mais c'est
mon film. Donc,
bien sûr, mais ils passent une œuvre. Mmh. Ils passent, là, c'est moi qui parle. Donc, on entend ma parole. Mmh. Donc, bien sûr, dès qu'un diffuseur fait l'amabilité. En général, s'il le fait, c'est que ça l'intéresse beaucoup. Hein, je veux dire, l'amabilité, c'est vraiment avec beaucoup d'ironie. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le cinéma, c'est très simple. Hein. Les films qui se font sont ceux qui rapportent. Voilà. Donc, mes films... depuis Marius et Jeannette, en fait, effectivement, ils sont diffusés sur les chaînes hertziennes.
Depuis 1997, voilà. Avec le succès de ce film.
Voilà. Mmh. Mais avant cela, il y avait eu 6 films qui n'ont jamais été diffusés. Voilà. Mmh. Donc, je ne me fais aucune illusion sur l'amabilité des uns et des autres, et même sur l'amabilité, parfois, je le dis comme ça, quand même, il faut être un peu polémique, et du service public, qui pourrait être un peu plus public que cela.
Visage RCF.
Robert Guédiguian, comment vous l'avez vécu, ce succès de Marius et Jeannette en 97? Justement, pas connu avant, très peu diffusé avant, et puis là, d'un seul coup, succès populaire et succès incroyable.
Ouais, c'est très bien. C'était très agréable. Non, c'était très agréable parce que là aussi, comme je vous disais, comme j'ai eu cette position... Quand je parlais de position de combat, ça veut dire que je suis aussi dans une position de lucidité. On revient à ce qu'on disait sur les intellectuels, etc., tout ça. Je pense, en fait, des situations dans lesquelles je vis. Je les pense tout le temps, voilà. Donc, c'est vrai que j'étais déjà... J'avais 40 ans. C'était le 7e film, Marius et Jeannette. Donc, j'avais déjà des heures de vol. Donc, je regardais ça avec... ça, je dirais, avec une grande satisfaction, parce que je savais très bien que ça allait me permettre de tourner deux fois plus qu'avant, avec beaucoup plus de moyens, etc., etc. Mais, donc j'étais tout simplement satisfait.
Et
ma tête ne pouvait pas tourner.
Vous n'avez pas changé de cap?
Pas du tout.
C'est ça. Ça ne vous est pas monté à la tête, puisque vous parlez de tête. Non. La notoriété ne vous a pas monté à la tête.
Ah non, mais pas une seconde. Pas une seconde.
Et ça vient d'où, ça?
Je ne sais pas comment le dire, mais ça vient probablement... Écoutez, ça vient de mon intelligence des choses. Hein, je le dis, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais voilà. Je
pense qu'effectivement... Intelligence des choses, c'est-à-dire savoir où vous pouvez vous faire piéger par la notoriété,
bien sûr,
le système.
Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et je continuerai à le faire.
Voilà, jusqu'au bout, toujours le même cap.
Voilà, mais j'ai pu faire des films un petit peu... Parfois, j'ai fait des films, effectivement... différents. En Marseille, d'ailleurs, celui qui sort le 5 janvier, Tristan Bamako, est un film entièrement tourné avec des acteurs africains, sans mes acteurs habituels, au Sénégal. Bon, mais c'est un film qui, vous le verrez, est complètement, j'allais dire, dans ma propre ligne éditoriale. Donc, ça s'appelle
complètement différent
et voilà, et
complètement de ce différent. Que vous avez fait jusqu'à maintenant avec vos acteurs fétiches, comme je dis.
Oui, resté moi-même, enfin, de manière très claire. D'ailleurs, c'est les Africains avec qui ont travaillé, tous les techniciens africains, exceptionnels d'ailleurs, je dois dire.
Et tous les acteurs
voyaient bien, ils avaient vu tous mes films avant, voyaient bien que j'allais là-bas, que je faisais mon cinéma là-bas. Mmh. Voilà.
Et on est dans la même ligne des films que vous tournez à Marseille d'habitude.
Absolument.
On va en parler dans un instant. Mais je voudrais quand même comprendre quelque chose. Je ne fais pas de l'exégèse de cinéma, hein, ce n'est pas ma spécialité du tout. Mais quand même, j'ai observé que dans certains de vos films, il y a beaucoup d'optimisme.
Oui.
Notamment Marius et Jeannette, c'était très optimiste. Et puis, il y a d'autres films plus récemment, La Villa ou Gloria Mundi, le dernier, quand même beaucoup plus pessimiste. Mmh. Ça veut dire quoi? En vieillissant, Robert Guédiguian, vous êtes plus pessimiste?
Non. En fait, ça ne correspond pas à des périodes chez moi, ça ne correspond pas à une chronologie, ça ne correspond pas à une dégradation de mon état, de l'état de mon optimisme. J'ai toujours pensé, je le dis souvent comme ça, qu'il fallait... Je dis souvent, d'ailleurs, ça va vous faire rire encore ou sourire, je dis souvent qu'il faut prêcher, soit par l'exemple, soit par le constat. Bon, grosso modo, ce qui veut dire que si je prêche par l'exemple, je fais un film optimiste, parce que le film dit aux gens, voilà les comportements que vous devriez avoir pour vous sentir mieux. Si je prêche par le constat, le film est pessimiste. Hein, il dit, regardez ce qui se passe quand effectivement vous vous comportez de cette manière. Voilà. C'est grosso modo, si vous voulez, et pour reprendre évidemment la figure la plus connue, c'est la différence aussi entre la tragédie et la comédie. La comédie prend une situation au départ et la résout. La tragédie prend une situation au départ et la laisse irrésolue à la fin.
Voilà. Mais vous êtes donc souvent dans la tragédie, j'ai l'impression,
pas trop,
Robert
Guédiguian.
Mais la tragédie, moi, pour moi, vous me faites penser parfois à la tragédie grecque.
Oui,
Gloria Mundi, pour moi, mais c'est complètement de la tragédie grecque, ce film. Moi, j'encourage tous ceux qui n'ont pas vu encore de voir Gloria Mundi, puis après d'aller voir votre nouveau film Twist à Bamako, mais de regarder Gloria Mundi. Il y a quelque chose de la tragédie grecque. C'est absolument incroyable.
Bien sûr. Non, mais c'est, comment dire, vous savez, pour parler aussi comment ça, c'était un genre, la tragédie grecque, hein, comme le western.
Oui.
Tu vois, voilà. Donc, effectivement, il y a des règles précises et tout, et qui, quand même, fonctionne bien depuis 2000 ans maintenant. Bon, voilà, donc il faut, je crois que tout artiste qui se préoccupe de narration, dans les arts de la narration, dans le roman, dans le théâtre, dans le cinéma, on est forcément confronté à ce type, à cette manière de raconter les histoires.
Mais souvent ça finit mal,
Robert. Souvent ça finit mal, mais on en a besoin. On a besoin aussi d'être parfois réveillé par des films qui finissent mal, d'être secoué, d'être... Et parfois on a besoin aussi de sortir de la salle de cinéma en étant... réjoui, heureux et ravi, quoi, avec une musique magnifique sur le générique de fin, etc., etc. Pour moi, les deux sont nécessaires, en fait, à la compréhension du monde et à son questionnement. Voilà.
Robert Guédiguian, pour parler de votre nouveau film, votre 22e film, qui sort le 5 janvier, Twist à Bamako, pourquoi vous êtes parti en Afrique? Parce que là, vraiment, c'est complètement différent des films habituels de Robert Guédiguian à Marseille.
D'abord, c'est vrai que comme je travaille souvent dans le même théâtre, pour ainsi dire, parfois, je l'ai déjà fait, j'aime bien être invité dans un autre théâtre, comme je dis, c'est-à-dire j'ai tourné en Arménie, j'ai tourné Le Promeneur du Champ de Mars. Bon,
mais c'est les exceptions, là, les deux que vous me citez, c'est des exceptions.
L'Armée du Crime, une histoire de fou, on peut dire. Bon,
mais globalement, c'est toujours Marseille.
Quatre films sur 22, ça fait un film sur cinq, grosso modo. Un film sur cinq, il faut que je m'en aille.
D'accord. Et là, il a fallu partir en Afrique.
Voilà.
Mais donc, c'est pas... l'action, c'est le Mali, 1962.
Oui.
On est après la décolonisation et on est en pleine situation où le socialisme se développe avant le
très belle période.
Une belle période. Ouais. Mais encore, il y a de la dramaturgie dans ce film.
Oui, bien sûr. En cause d'une histoire, il fallait bien trouver une manière, parce que ça aussi, c'est une narration, il faut que les idées que l'on a sur le monde s'incarnent. Donc il fallait trouver une narration.
Allez, expliquez-nous un tout petit peu en résumé ce film, le pitch du film.
C'est en fait une grande histoire d'amour entre deux très très jeunes gens dont l'un est militant pour la construction du socialisme, dans l'indépendance, il était intellectuel, militant, il va dans tous les villages pour porter la bonne parole, etc., etc., même dans les villages les plus reculés. Et il est confronté, il a une histoire d'amour fulgurante avec une jeune fille qu'il rencontre dans un village, très jeune, et qui a été mariée de force parce que les mœurs n'avaient pas changé par un coup de baguette magique et par l'indépendance. Voilà.
Donc là, c'est le socialisme qui se heurte
à la tradition. Et pas tout le film, effectivement, il y a cette confrontation, parfois violente, je veux dire, entre les volontés, en fait, émancipatrices, y compris, donc, du point de vue des mœurs, pas que du point de vue des rapports sociaux, et la tradition, les anciens, les grands commerçants, les riches commerçants, les féodalités dans les villages.
Mais là encore, Robert Guédiguian, j'ai eu la chance de voir le film en avant-première, on sent les désillusions de ce jeune socialiste, parce qu'il y croit, il a la foi, c'est incroyable.
Oui.
Il est prêt à partir dans la brousse, à annoncer la bonne nouvelle du socialisme, et puis il se heurte aux marchands, qui ne pensent qu'à leur intérêt, il se heurte au poids de la tradition dans les villages, mais il se heurte aussi aux membres de son propre parti qui deviennent dictatoriaux, quelque part. Et désillusions.
Oui, mais c'est justement, je crois qu'il faut étudier les choses pour qu'elles ne se produisent plus. Donc c'est vrai que je considère en fait que ce film, il a une chute d'ailleurs, hein, ce film. Il a une chute contemporaine dans le Mali d'aujourd'hui. Ce qui quand même tend à dire que si jamais ils avaient, ce que dit d'ailleurs carrément, effectivement, je ne veux pas raconter le film, mais ce que dit carrément un personnage à la fin du film, s'ils avaient tous écouté ce jeune militant, le Mali n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc je crois que c'est bien de revenir, ça peut aussi avoir ça peut aussi nous éclairer de voir une réalité antérieure, de voir comment, pourquoi elle a dysfonctionné. Voilà. pourquoi elle n'a pas marché.
Mais c'est son parti qui a dysfonctionné aussi.
Certaines dans son parti, le rapport de force, on va dire, était défavorable entre ceux qui pensaient qu'il fallait continuer à convaincre et que les mœurs, il fallait continuer à travailler sur les mœurs, il fallait continuer donc à travailler sur le code de la femme, contre les mariages forcés, contre la polygamie, et ceux qui disaient qu'il faut freiner un peu et respecter un peu, c'est-à-dire nos électeurs qui pensent le contraire, donc aller dans le sens du poil, être populiste quasiment, voilà. C'est vrai que, bon, à ce moment-là, ça, c'est deux tendances qui existent encore aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, Robert Yédillon, sincèrement, il n'y a pas chez vous, finalement, une forme, allez, un peu de désillusion autour de tout ce qu'on a pu essayer de mettre en place comme organisation? Et finalement, on le voit, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a du mesquin,
oui,
il y a du petit.
C'est sûr. C'est sûr. Mais on ne peut pas être, je crois. On ne peut pas faire autrement, en fait, que de considérer que, d'abord, il faut retenir des moments d'exaltation, l'exaltation. Voilà. Il faut se souvenir des moments heureux, hein, je veux dire, des moments. Et il faut aussi dire, quand même, que ça, si nous n'avions pas fait tout ça, le monde serait bien pire que ce qu'il est. C'est une chose. S'il n'y avait pas eu tous ces combats, s'il n'y avait pas eu toutes ces résistances, s'il n'y avait pas eu tous ces acquis, que souvent on appelle les conquis maintenant, ce qui est une belle expression aussi, je trouve, parce qu'il n'y a jamais eu d'acquis, il n'y a eu que des conquêtes, en fait. Bon, s'il n'y avait pas eu tout ça, je veux dire, où en serions-nous? On serait resté au 19e siècle, je veux dire, avec des enfants qui travaillaient dans les mines, et etc. Il y a des tendances parfois un peu étranges en ce moment de presque nostalgique, hein, du 19e siècle, on pouvait exploiter dans tous les sens les travailleurs, les enfants, les vieux, etc., etc. Bon. Faut s'en méfier. Mais en fait, quand même, on peut considérer qu'il y a eu quelques progrès, quand même, dans l'humanité, dans les conditions de vie, etc.
Plus en Europe qu'en Afrique.
Plus en Europe qu'en Afrique. Mais c'est vrai que, je considère, je mets ça à l'actif. À l'actif de tous les combats qu'on a menés. Donc, de ce point de vue, je me réjouis de toutes ces victoires-là. Bon. Qu'il y ait toujours d'autres combats à mener, c'est sûr. Donc, je pense que ça sera jamais fini. Mais
et donc votre combat, ça continue dans vos films, travers vos films.
Voilà, et dans ces combats-là, je crois que parfois, il faut montrer effectivement pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il faut tirer des leçons. Bon.
Robert Guédiguian, le titre de ce livre d'entretien avec Christophe Kantchev est « Les lendemains chanteront-ils encore ?» Point d'interrogation. J'ai envie de vous la poser, cette question. Les lendemains vont chanter encore, vous croyez?
Oui. Oui,
vous y croyez vraiment?
J'en suis sûr, mais je vous mêle, en fait. Non, je suis... je sais que le titre est volontairement commencé un peu fait à double sens. Donc, ils chanteront parfois, et puis parfois ils ne chanteront pas. Voilà, je pense ça, c'est tout.
Merci beaucoup, Robert Guédiguian. J'étais ravi de cet échange avec vous. Merci pour vos films. J'encourage vraiment à tous ceux qui aiment le cinéma de les découvrir s'ils ne les connaissent pas encore, et notamment d'aller voir le prochain au moment où on enregistre cette émission, Twist à Bamako, un film qui sort le 5 janvier. Et puis je renvoie à votre livre, qui est un livre, alors là, beaucoup plus politique. Hein, oui, je le dis, c'est pas un livre pour les cinéphiles.
Ça ne raconte pas une histoire.
Là, c'est vraiment de la politique. Ouais. Les lendemains chanteront-ils encore, en dialogue avec Christophe Kantchev, un livre publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Au revoir, Robert Guédiguian.
Au revoir, merci.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.